Le genou.
Ah ouais. Ah.
Ça va.
C'est un peu marrant parce que quand même, dans mon chapeau, je parle du fait
France Culture.
On se plaint du mal de genou. Vous verrez tout à l'heure.
C'est pas vrai, vous parlez
si,
de ça.
Parce que c'est qui en...
Ah, c'est David Lodge.
Ah, c'est David
Lodge. C'est David Lodge en thérapie.
Le Book Club.
Mais alors, j'ai pris des choses que...
Ça nous a enthousiasmés. Ça nous a rendu hyper curieux.
C'est vrai.
Ouais.
Oh là là, mais alors, parce que moi, je parle hyper mal des livres.
Dans la juste... bibliothèque même de Fab Caro.
J'ai très peu de souvenirs, c'est juste des époques et des...
Moi aussi.
Mais vous savez parler des livres, vous?
Bah, les livres que je lis, ils me laissent plus des traces que...
Ben, moi, c'est pareil, je garde des sensations, mais j'ai aucune mémoire.
Marie-Richard.
J'avais une personne dans votre club. Le personnage Oui-Oui qui essaie de faire avancer une poule plutôt que de la mettre sous son bras. Un homme invité mystère qui débarque dans un milieu qui n'est pas le sien. Un livre dont on espère qu'il atterrira sur la planète avec la force d'une météorite, alors qu'on n'en a pas encore écrit une ligne. L'usure de notre compassion et les pires nouvelles du monde qui ne nous empêchent pas d'avoir très mal aux genoux et de s'en plaindre. Enfin, le portrait d'un comédien gigantesque trouvant un jour la force de déjouer sa gigantesque timidité pour se lancer sur scène. Il y a tout ça dans les livres que vous avez choisi de partager avec nous aujourd'hui, Fabrice Caro. Alors bien sûr, on évite de considérer trop vite qu'il y a dans ces déballages de bibliothèque pour le book club quelques indices d'un portrait en creux, mais c'est tentant, et puis c'est rigolo, et souvent c'est plus profond qu'on ne veut bien le croire. Enfant et adolescent, passionné de lecture, vous allez nous raconter ça, vous écrivez et publiez des livres depuis quelques années maintenant, beaucoup de bandes dessinées et quelques romans, dont le dernier met en scène un homme qui peut foudroyer ce qu'il maudit. Merci beaucoup Fabrice Caro d'avoir accepté cette invitation.
Merci
du book club à déballer votre bibliothèque. On a des espèces de petits extraits de votre bibliothèque comme ça, très légère, en papier, une bibliothèque de photocopie. C'est pratique, ça voyage tranquillement. On va commencer par un portrait de vous en tant que lecteur. Mm-hmm. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, peut-être à côté de qui, peut-être dans quel paysage vous avez appris à lire?
Alors, j'ai pas une image précise, mais c'est une époque. Alors, ouais, c'est... J'ai appris à lire... J'ai tendance à dire j'ai appris à lire tout seul. Non, c'est pas vrai. On n'apprend jamais à lire tout seul, c'est pas possible. J'ai appris à lire avec ma mère, ma maman, qui me lisait des histoires avec le doigt, vous savez. Elle lisait, tout en lisant, elle passait le doigt dessous, et comme ça, je visualisais les mots. Et comme j'étais très demandeur, souvent de la même histoire, à force, je visualisais, comme ça, je commençais à visualiser les mots. Je crois que c'est comme ça que j'ai appris à lire. Sur, si j'ai... Bonne mémoire. Alors, c'est peut-être pas le tout premier, mais c'est un des tout premiers. En tout cas, celui dont je me souviens, c'est L'Infernal Petit Lapin. Ça vous parle?
Non.
Non, ça vous parle pas.
C'était quoi?
C'est un lapin qui faisait que des bêtises, qui écrivait sur les murs. Et voilà, donc j'ai appris à lire, je crois, ouais, c'est ça, avec ma maman qui me lisait un petit peu toujours les mêmes livres.
Elle le faisait sciemment, vous croyez, de déplacer son doigt pour vous transmettre le déchiffrage, la lecture?
Alors au début, je ne sais pas, mais alors ce qui est sûr, c'est que moi, après, j'étais demandeur pour comprendre le système. Ouais, ouais.
Parce que vous aviez pigé que des lettres sur une page, ça faisait des mots, enfin qu'il y avait un enjeu comme ça de lecture.
Ouais.
Ça, c'était clair pour vous?
Oui. Puis je sentais que... Enfin, je voulais faire ça tout seul, moi. Je me disais, oh, mais si je pouvais faire ça, ce serait génial, quoi.
Et donc, vous vous souvenez quand vous avez commencé à pouvoir le faire tout seul?
Ouais, bah ça a ouvert un univers incroyable. Enfin, c'est une banalité de dire ça, mais en même temps, ça m'a ouvert un univers incroyable et en même temps, ça m'a enfermé aussi parce que j'ai commencé à me mettre dans ma bulle et puis ouais, la lecture, ça peut être aussi piégeux, quoi. Cela dit, c'est pas que j'ai un souvenir assez traumatisant de ma parce que j'ai appris à lire du coup assez tôt et je suis arrivé au CP, je savais déjà lire, donc je me rappelle des premiers jours. Donc le maître qui commence à écrire des mots au tableau et je savais les lire, donc il en met des plus compliqués, il écrit des phrases et je savais les lire. Et bon, il y a une espèce de moment suspendu comme ça, puis il part dans une autre pièce, il va passer un coup de fil. Et là, tous mes copains qui me disent « Oh là là, tu vas aller au collège, tu vas aller en sixième !» Et je me rappelle, c'est un moment hyper traumatisant pour moi, c'était horrible. Et je me disais « Ben non, moi je veux rester là, je veux pas aller au collège. » Je me disais presque « Mais pourquoi tu as fait croire que tu savais lire ?» Bon, évidemment pas du tout, il m'a fait passer au CE1, mais je me rappelle de ce moment qui était hyper traumatisant.
Ouais, quelle surprise, quoi.
Mais oui, c'était horrible.
Oui, c'est cette chose qui me permettait d'avoir accès à des mondes fabuleux va me faire quitter mes copains.
Ben, c'est ça. Je me suis dit, ben, tu vas finir avec des gars qui font 1m80 avec du duvet sous le nez, mais c'est horrible. Mais non, finalement, ça va.
Finalement, tranquille, vous êtes resté en primaire.
Ça a été.
Est-ce qu'il y avait des livres chez vous, Fabrice Caro?
Pas tellement. Enfin, moi, j'étais avec ma maman, c'était un milieu assez populaire. Il y avait des harlequins, je ne sais pas si j'ose trop le dire. J'ai grandi avec des harlequins autour de moi. Non, il y avait des harlequins, puis il y avait des... Je ne sais plus ce que c'était, cette collection. C'était collection Atlas. On achetait des beaux livres. C'était plus pour garnir les bibliothèques. En fait, je crois que c'était des classiques, avec une reliure très jolie comme ça. Mais c'était plus pour faire joli dans la bibliothèque. Je ne sais pas si ma maman les a déjà ouverts. Mais voilà, des livres de, d'ornement, on va dire.
Qui lisait les Harlequins ?
Et des Harlequins. Ma maman lisait ça.
Et vous aussi, par conséquent ?
Et moi, quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à tout dévorer. Du coup, je crois que j'ai lu quelques... La honte, le coming out que j'ai fait. Là. Non, et j'ai commencé à lire quelques Harlequins, je crois, qui traînaient, je feuilletais ça. Sans trop de second degré, en vrai,
ben
même
oui.
À l'époque. Ouais, ouais.
Bien sûr, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui lisent des Harlequins sans trop de second degré. Ouais, et ouais. On les salue, en fait,
ben
avec
oui,
toute notre amitié.
Ben oui, puis c'est une... C'est une bonne école, je trouve. Enfin, une bonne école. Ouais, moi, je me souviens avoir lu des Harlequins, puis être rentré là-dedans, quoi. Ouais.
Est-ce que les livres qui étaient plus des livres pour enfants, vous les trouviez à la bibliothèque, vous les trouviez à l'école, vous alliez les acheter ?
Oh là là, je sais plus du tout. Je sais que quand j'ai commencé à dévorer des livres, ma maman me les achetait. Les premiers, sûrement à l'école, que j'empruntais. Et après, ça a été... Bah, elle me les achetait. Il y avait Pif Gadget, que je lisais. Bon, là, j'étais un petit peu plus grand, déjà, mais...
Vous aviez quel âge, Pif Gadget ?
Oh, 8 ans, 9 ans. Oh, je suis nul en âge. Ouais, dans ces eaux-là.
Mm.
Pif Gadget, ouais, c'est ça, 8 ans, peut-être 7 ans ? Je ne sais pas du tout. Mais à cet âge-là, ouais, Pif Gadget, les premiers Astérix.
Il y avait quoi dans Pif Gadget pour les gens qui n'ont... Les gens très
jeunes.
Ah oui,
c'est vrai que là, je parle
jamais...
de trucs, pour moi, tout le monde connaît ça.
Mais non, mais dites, racontez, qu'est-ce que c'était Pif Gadget ?
C'était un magazine qui paraissait toutes les semaines. C'était de la BD, il y avait des aventures de Pif, il y avait les Docteurs Justice, il y avait Raon, il y avait Hercule, il y avait 10 centimes. Bon, je ne vais pas tous vous les faire. Et la spécificité du truc, c'est qu'il y avait un gadget toutes les semaines. Et alors, il y avait le couteau de Raon. Raon, c'était un...
Bien sûr, Raon, ça j'ai, moi.
Vous connaissez,
ouais.
Il y avait...
C'est ça, Raon, les fées de ta-ta-ta, c'est ça.
Ah, je connais que le livre, je ne connais pas la BO. C'est possible.
C'est ça ou pas? C'est ça.
Et voilà, non, il y avait des gadgets, ouais, des gadgets qui marchaient jamais, mais on était toujours contents de les avoir, quoi. Il y avait un truc qui s'appelait les Pifies. C'est des petites larves qu'on mettait dans l'eau et ça, c'était des animaux préhistoriques. Enfin, je sais pas, on nous vendait. Ça marchait jamais, c'était un petit peu foireux, ça marchait une fois sur deux, mais on était toujours ravis de. Bon, là, on s'éloigne de la lecture, mais voilà, il y avait ce rendez-vous hebdomadaire du Pif Gadget.
Ouais. Et est-ce que vous diriez, sans forcément reconstruire les choses trop à posteriori, Fabrice Carreau, qu'il y a là quand même un début d'amour pour la BD, pour les personnages, pour des aventures comme ça qu'on retrouve régulièrement ?
Ah ouais, ça a été un coup de foudre, entre Pif Gadget puis Astérix, quand ma mère m'a offert le premier Astérix, c'était le Grand Fossé, il est sorti en 80, donc j'avais 7 ans. Ça a été un coup de foudre. Ouais, ça a été vraiment un coup de foudre. Je découvrais là, pareil, un monde. Après, elle me les achetait petit à petit parce qu'elle avait pas beaucoup d'argent, mais chaque fois, elle me les achetait. Donc, je les lisais, je les relisais. Et ça a été.
Vous saviez ce que vous aimiez là-dedans ?
Ça m'évadait. J'étais un petit garçon très timide. Je suis resté timide, mais ça va mieux avec l'âge. Mais j'étais très très timide et très renfermé. Et je me mettais dans ma bulle. Puis j'étais bien, quoi. J'étais dans mon univers. Je vais pas faire de la psychanalyse à deux balles, mais je crois que c'est pour ça que je continue à écrire.
Parce que c'est doux d'être là.
Pour retrouver cette bulle d'enfance. Ouais. Je crois que c'est ça. Fin...
Vous étiez où ? Vous lisiez partout ?
Ouais, partout. J'avais l'image du petit garçon qui adore lire. Alors partout où j'allais, on me mettait un livre entre les mains. Mais des fois, des livres qui n'avaient aucun intérêt. J'allais chez des tantes qui me mettaient des livres de couture ou d'alpinisme entre les mains en disant « Fabrice, il aime lire, il va se régaler ». Bon, je ne me régalais pas des masses, mais j'avais cette image de dévoreur de livres. Donc ouais, je lisais tout le temps, partout.
Et c'était une image positive ?
Oui, positive, parce qu'on dit « Ah, il aime lire, c'est bien ». J'étais assez timide, donc je ne regardais pas les gens dans les yeux. On me dit « Fabrice, il faudrait que tu t'épanouisses un petit peu, il faudrait que tu parles, il faut que tu regardes les gens dans les yeux ». Donc il y avait ce côté-là aussi... Bon, c'est bien qu'il sache lire, mais il faudrait bien qu'il soit dans la vraie vie aussi, quoi.
Comme s'il y avait vraiment la lecture, c'est ce monde qui vous coupe des autres, et la vraie vie, ce serait ce monde où on regarde les gens dans les yeux et on va jouer au foot dehors, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais moi, je le ressentais comme ça quand j'étais petit, je crois. C'était le livre, c'était le refuge. C'est l'endroit où j'étais bien, où j'étais fort, où j'avais pas de doute. Et dès que je sortais de là, c'était plus compliqué. je crois que c'est resté aussi un petit peu, ça, mais... C'est pour ça que j'ai ce côté staccanoviste, je ne sais pas trop sortir de ma bulle.
Et aujourd'hui, ça prend quelle place dans votre vie, la lecture ?
Oh là là, pas assez de place, je suis un lecteur frustré, moi en fait, c'est horrible. Je ne m'octroie pas, je ne m'autorise pas du temps pour lire, c'est idiot en fait, parce que je culpabilise si en pleine journée, je m'assois sur le canapé pour bouquiner. Je me dis, non, tu ne vas pas lire en pleine journée, ça ne se fait pas.
C'est oisif, quoi.
C'est oisif, j'ai une espèce de culpabilité du prolo, quoi. Enfin, le fait de dire, tu dois travailler, quoi. Alors que si on va au fond des choses, lire, ça fait partie de mon travail. Il faut se nourrir, il faut, faut aller chercher un petit peu de la matière, quoi. Mais non, j'ai cette espèce de culpabilité qui fait que je suis incapable de me poser en journée pour lire. Alors, le seul moment que je m'octroie pour lire, c'est le soir quand je me couche. Mais comme je suis vieux et fatigué, je m'endors très vite. Donc, je lis très peu. Bon, donc, du coup, je dois lire quoi? Une heure par jour, le temps de, où je suis au lit.
C'est déjà beaucoup.
C'est pas énorme. Avec tout ce qu'il y a à lire, moi, je suis vraiment lecteur frustré. Je me dis, mais, et en plus, je m'endors assez vite. J'ai des livres qui s'accumulent comme
vous
ça.
Vous avez quoi sur votre table de chevet?
Oh là là. C'est un bazar pas possible. Parce qu'en plus, j'essaie d'avoir un petit peu tout. J'essaie de ratisser large. Ça aussi, c'est idiot, parce que je me dis, suivant l'humeur dans laquelle je serai au moment où je suis au lit, il faut que je puisse trouver un livre qui m'ira. C'est bête, on peut très bien se lever et aller le chercher.
Alors franchement, c'est pas toujours simple de se relever. Franchement, moi, je trouve ça plutôt assez bien organisé d'avoir une multitude de possibilités à côté de soi.
Du coup, je ratisse assez large. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a, de mémoire, j'essaie de visualiser, il y a le dernier Grégoire Bouillet, il y a le dernier Philippe Génada. Ça, c'est mes deux chouchous en général. Voilà, c'est des copains que je suis un petit peu. Il y a deux livres que j'ai trouvés dans un vide-grenier la semaine dernière. Un qui s'appelle Le Couloir, c'est assez noir. C'est une infirmière qui travaillait dans un hôpital à la fin des années 80, qui travaillait avec des gens qui avaient le sida. Un autre qui s'appelle, de mémoire, pareil, je ne suis pas sûr du titre, de Pierre Bayard, je crois, aux éditions de Minuit. Comment parler des livres qu'on n'a pas lus? Ça vous parle, tous les livres que j'ai
aussi? Tout à fait, ouais. Sauf Le Couloir, je ne connais pas.
Ben, Le Couloir, c'est un vieux livre, j'ai trouvé ça. Mais c'est l'avantage. J'adore les vides-greniers pour ça.
Qu'est-ce qui vous a fait le choisir?
Je regarde la quatrième de couve, ouais. Voilà, la thématique, une infirmière dans les années sida, c'est un truc qui me...
Ouais, c'est vrai. C'est un témoignage
Ouais, c'est un témoignage, ouais, Le Couloir ça s'appelle, j'ai oublié le nom de l'autrice, mais ouais, c'est une période qui me fascine, j'adore Hervé Guibert aussi pour ça, parce que c'est une période que je trouve très très anxiogène en même temps, c'est fort je trouve, donc le livre m'a parlé tout de suite. Qu'est-ce que j'ai des bios, évidemment. J'ai la bio de Jean-Louis Trintignant, j'ai la bio de Jean-Louis Murat. Et un livre de Philippe Labro. Pareil, c'est un vieux truc que j'ai trouvé dans un vide-grenier qui s'appelle « Je connais gens de toutes sortes ». C'est une galerie de portraits qu'il avait fait quand il était journaliste. Enfin bon, je ne vous fais pas tout, parce que c'est un petit peu ennuyeux, mais en gros, voilà, j'essaie de ratisser large pour trouver le livre qui sera dans l'humeur du moment.
Ça veut dire que vous ne cherchez pas dans les livres toujours la même chose, Fabrice Caro, qu'il y a chaque jour son livre, chaque heure son livre.
Ouais. Puis même, je suis pas le lecteur d'un livre. J'ai toujours 4 ou 5 livres en parallèle, justement en fonction de mon humeur, en fonction de ce que je veux aller chercher. Des fois, j'ai envie de m'alléger, j'ai envie de pas trop de choses assez légères. Des fois, j'ai envie d'être un petit peu secoué. Des fois, d'être un petit peu tiré vers le haut, d'être un petit peu perdu. Enfin, ça dépend. Mais c'est pour ça que j'aime bien lire plusieurs trucs en parallèle. Mais du coup, je vais très lentement. Je mets des fois des mois pour finir un livre. Surtout que Grégoire et Philippe sortent à chaque fois des pavés. C'est horrible. Donc, tout ça est très, très long.
J'invite nos auditeurs et auditrices à réécouter le book club qu'on a consacré au dernier livre de Grégoire Bouillet. Parce que c'est un très bon souvenir à la fois de radio et un immense souvenir de lecture. On va parler de votre bibliothèque, Fabrice Caro. Juste après cette chanson de Dépêche Mode, personnel Jesus, reprise par Alcazar.
Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Fab Caro. Marie Richeux.
On arrive dans le moment, Fabrice Caro, du déballage de votre bibliothèque où on va aller de livre en livre. Donc on demande à tous nos invités de choisir ce qu'on appelle à la fois des livres étapes, mais en fait c'est un mot pour parler des livres que vous avez envie de partager avec nous et de partager avec nos auditeurs et auditrices. On imagine à chaque fois que c'est un choix qui, voilà, c'est une photographie du moment. C'est un choix qui pourrait éventuellement changer. Mais peut-être vous pouvez nous dire comment vous avez fait ce choix-là? Quand on vous a dit, OK, 5 livres, vous vous êtes dit quoi? Vous avez fait comment?
C'est horrible. Je crois que c'est le choix. Choisis 5 livres dans ta vie. Enfin, c'est le choix le plus horrible.
Oui, mais c'est pour ça que je l'allège un peu. Ouais, c'est pour dire que c'est ça, puis que oui, ça pourrait être autre chose.
Alors, bon. Du coup, voilà. Donc, voilà, c'est ça aurait pu être autre chose, exactement. Donc du coup, j'ai raisonné en termes d'étapes, c'est ça. C'est-à-dire plutôt que 5 livres, parce que les livres en soi... je les adore, mais c'est plus... ils représentent 5 étapes de lecture, on va dire. Voilà, j'ai essayé de choisir comme ça. Sinon, c'est une vraie torture de choisir 5 livres sur une vie.
Du coup, on est un peu chronologique, j'imagine, en commençant par Oui, oui. C'est un album qui date de 1976, qui fait partie de la Bibliothèque Rose, chez Hachette. Et Oui, oui, est écrit par Enid Blyton. Est-ce que vous voulez nous en lire l'extrait que vous avez choisi?
Comme vous voulez, dans quel ordre?
On écoute. On vous écoute.
D'accord. Alors, je préviens les auditeurs, je lis pas très bien.
Ça veut dire quoi, lire pas très bien? À l'oral, vous
voulez dire? À l'oral, oui, non, parce que dans ma tête,
votre tête, tout va bien.
Oui, mais dès que j'oralise, c'est la catastrophe. Mais je vais faire un effort.
Donc, on est parti pour Oui, oui, fais les courses, 1976, par Fabrice Caro.
Oui, oui, le petit pantin du pays des jouets a une voiture très gentille. C'est Madame Bouboule, l'ours en peluche. Alors, je fais une parenthèse. Comme le texte est plein de feutre et de... J'ai du mal à lire.
Vous êtes empêché.
Elle lui fait souvent cuire des gâteaux et elle lui lave ses rideaux quand ils sont sales. Oui, oui, lui rend aussi service le plus souvent qu'il peut. Il vient frapper à sa porte pour lui demander « Madame Bouboule, voulez-vous que je fasse quelque chose pour vous aujourd'hui ?» La plupart du temps, Madame Bouboule a justement un petit travail à lui demander. Aujourd'hui, c'est elle qui vient le voir. Elle frappe à la porte de sa maison. Oui, oui, le fermier, Monsieur Paille, a promis de me donner une poule qui me pondra des œufs pour mon déjeuner. Veux-tu aller me la chercher à la ferme ? Oui, oui, se met immédiatement en route. Le fermier est occupé à traire ses vaches. Il dit à Oui, oui, va la chercher toi-même. Oui, oui, va donc chercher la poule. Ce n'est pas facile d'attraper une poule. Mais une fois qu'elle est attrapée, il reste un gros problème. Comment ramener cette poule chez Madame Bouboule ? Je sais, je vais la faire marcher devant moi comme Monsieur Paille le fait avec ses vaches. Il pousse la poule hors du poulailler et lui crie bien fort « Marche devant moi !» Mais la poule n'obéit pas. Elle se sauve à toute vitesse de l'autre côté en caquetant sans arrêt. Oui, oui, passe toute sa matinée à essayer de la faire avancer, mais elle ne veut vraiment pas lui obéir. À la fin, elle disparaît parmi les autres poules et Oui, oui, on ne sait même plus laquelle c'était. Il revient tristement chez lui et raconte l'affaire à Madame Bouboule. L'ours éclate de rire. « Mon pauvre Oui, oui, il fallait prendre la poule sous ton bras et me la ramener bien tranquillement. C'est comme ça qu'on transporte une poule. » « Je le saurai la prochaine fois », déclare Oui-Oui. « Si on a quelque chose à rapporter, on le met sous son bras. » Le lendemain, Madame Bouboule lui demande de rapporter. Suspense, ça s'arrête là.
Ah oui, incroyable.
C'est bien, ça fait un teaser.
Ouais, on j'adore. A envie de... C'est Oui-Oui fait les courses, qui est paru donc en 1976. L'autrice s'appelle Enid Blyton. Elle est née en 1897 et morte en 1968. C'est une autrice britannique qui était spécialisée dans la littérature d'enfance et de jeunesse. Et surtout, voilà, elle a créé cette série qui est un succès mondial avec des millions d'exemplaires écoulés et traduits dans près de 90 langues, dont des livres que vous avez lus, Fabrice Caro. Alors, c'est quoi comme étape de votre vie de lecteur, ce « Oui, oui, fait les courses » ?
Oh, c'est la toute première étape, c'est mes premiers romans, en fait. On parlait tout à l'heure du Petit Lapin Infernal, des livres illustrés comme ça. Mais après, les premiers romans que ma maman m'a achetés, ça a été les Bibliothèques Roses. Donc, c'est la toute première étape de première collection, en fait. On est content d'avoir ces premiers livres qui se ressemblent, comme ça, qui sont de la même couleur. Après, on grandit, on passe à la Bibliothèque Verte, là on est déjà plus... Mais les tout premiers, c'était, ouais, Bibliothèque Rose, donc j'avais Oui, oui, fait les courses. J'ai choisi celui-là parce que c'était le tout premier, en fait.
Et vous aviez gardé l'original, là, vous êtes venu avec des photocopies, mais...
Alors, les originaux, j'ai, à force de déménagement, de maisons qui se vident, je les retrouve plus.
Okay.
Et alors, je me suis mis en tête, est-ce que je le dis, ça? Oui, c'est pas, je peux le dire.
Comme vous voulez.
Je me demande si c'est honteux ou pas à chaque fois, comme déclaration. Non, je me suis mis en tête de racheter tous mes livres d'enfants. Donc, le oui-oui que j'ai là, c'est un oui-oui que j'ai trouvé dans un vide-grenier. Mais c'est une quête.
Depuis quand vous vous êtes mis en tête de faire ça?
Ah, je m'éclate, il n'y a pas très longtemps. D'un coup, je me suis dit, mais c'est dommage, j'ai pas mes livres d'enfants.
Ah, oh, j'adore cette idée. Et avec vos souvenirs, quoi. Vous vous êtes dit, ah tiens, je me souviens.
J'ai fait une liste, Madeleine de Proust, comme ça, de tous les livres que j'avais quand j'étais enfant ou que j'avais lus. Alors, je fais confiance à moitié à ma mémoire de vieux, mais je suis arrivé à retrouver pas mal de livres. Et après, l'étape d'après, c'est d'essayer de les retrouver soit dans les vide-greniers, soit sur Internet, soit... Et donc, ce Oui, Oui, là, c'est un livre... Donc, j'ai retrouvé comme ça, ouais, Oui, Oui, fait les courses, Le Petit Lion Inventeur, Super Chat contre Vilmatou. Enfin, mes trois premiers livres de la Bibliothèque Rose.
Beau voilà. Projet, c'est presque un projet conceptuel.
C'est une... Ouais, on dit, c'est presque du Sophical.
Ouais, c'est presque du Sophical, j'allais le dire.
Mais rien que ça, il se prend pour Sophical.
En référence à un texte qu'on va lire plus tard. Non, mais ça me fait aussi penser à... Enfin, je la rapproche de l'image de la fin de votre dernier roman, Fabrice Caro, où il est question d'une enfance dans un fourgon. C'est aussi l'idée qu'il y a comme ça des objets, du tangible, qui sont porteurs de souvenirs, et que ça, on peut quand même difficilement...
Ah oui, mais moi, j'ai un lien à l'enfance qui est assez pathologique. Comme je vous dis, j'en suis jamais sorti, j'essaie de pas en sortir. C'est assez pathologique. Donc, c'est pas de la nostalgie. Je suis pas nostalgique. Moi, je suis pas du tout dans le c'était mieux avant, pas du tout. Mmh. Mais j'ai un lien à l'enfance qui est très très fort. Donc, j'essaie d'y aller j'y vais régulièrement. J'y suis même. Je sais même pas si j'en sors. Et donc, ça, cette espèce de quête-là fait partie de ce truc-là. Essayer de retrouver ces livres d'enfance.
Donc, la liste est faite.
Et
là, pour l'instant, vous en avez trouvé 3 ou 4.
Il y a des trous partout, parce que je perds un petit peu la boule avec l'âge. Mais j'ai réussi à faire une liste assez rigolote, assez étoffée. Et je me force à pas tout acheter d'un coup sur Internet. Parce que sur Internet, on peut tout acheter, en fait. Oui. Mais j'aime bien l'idée de faire des vide-greniers, puis d'être à l'affût, comme ça, comme une espèce de chasseur.
Et ça aura une place particulière dans l'endroit où vous habitez, cette reproduction de votre bibliothèque d'enfance?
Ouais, il y a une espèce de bibliothèque un petit peu Madeleine de Proust, comme ça, qui est...
Ça alors.
D'accord, mais je savais pas que c'était si original. Je croyais que beaucoup.
Je sais pas. C'est la première fois que j'entends quelqu'un me raconter ça.
C'est vrai,
ça,
d'accord. Mais... Ouais. J'ai un lien très très fort à l'enfance et là, peut-être avec l'âge qui passe comme ça, avec l'âge. L'envie de revoir ces livres, ça me fait toujours un truc super fort, un truc hyper physique. Quand on prend un livre comme ça qu'on a lu quand on avait 5, 6, 7 ans, c'est toujours hyper fort, quoi.
Et c'est agréable.
Ah ouais, j'adore ça. Moi, c'est une espèce de mélancolie qui explose. L'image est peut-être un petit peu...
Ça marche.
Non, et ouais, le pire, c'est de ne pas s'y attendre. On est dans un vide-grenier comme ça, et d'un coup, il y a la couve, et oh, tout s'illumine, les gens se mettent à danser. Non, c'est un truc très, très fort. Ouais.
Vous avez évoqué la figure de Sophie Calle, Fabrice Caro. Il se trouve que le livre que vous avez choisi, le deuxième livre que vous avez choisi, lui est dédié. C'est un livre qui est paru en 2004 aux éditions Alia, qui s'appelle L'invité mystère, et qui est signé Grégoire Bouillet. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot?
Alors, c'est le début du livre. Je crois que ça s'ouvre comme... Ouais, c'est le début. C'était le jour de la mort de Michel Léris, vers la fin septembre 1990 ou au tout début octobre, je ne me rappelle plus la date exacte. Peu importe, il sera toujours temps d'aller vérifier plus tard. En tous les cas, c'était un dimanche car j'étais chez moi, au beau milieu de l'après-midi, et il faisait froid pour la saison, et je m'étais endormi tout habillé, entortillé dans une couverture comme presque chaque fois que je me retrouvais seul avec moi-même. Le froid et l'oubli, je ne désirais rien d'autre à l'époque. Cela ne m'inquiétait pas. Je savais que viendrait un jour le moment de repartir dans l'existence et je n'étais pas pressé. Assez en avais-je vu, me semblait-il. Être, chose, paysage, j'avais de quoi ruminer pour un ou deux siècles et à quoi bon aller encore au-devant des histoires, je ne voulais plus d'ennui.
C'est un texte qui date de 2004. Alors si c'est un moment étape, c'est quoi comme moment étape pour vous, Fabrice Caro?
Déjà, ça a été un coup de foudre. Je suis tombé sur ce livre qui est édité chez Alia. Moi, j'adore cette édition. J'adore les petits livres Alia. Donc j'ai pris, souvent je prends au hasard. La couve n'était pas très sexy. C'était une bouteille de vin. Moi, je suis pas fan de vin. Et ça a été un vrai coup de foudre. Et alors quand je dis une famille de lecture, c'est une période où je lisais moins de romans, parce que pour moi, la lecture, c'est de la musique. Enfin, c'est une histoire de rythme. le fond des histoires m'intéresse assez peu. C'est juste une histoire de résonance, quoi, d'écriture. De... Il faut être en résonance. Et là, d'un coup, je trouvais un rythme qui me correspondait. Mmh. Un rythme, une espèce de rythme interne.
Une voix aussi. Une dans voix. Ce qu'écrit Grégoire Bouillet, ouais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est presque quelqu'un qui te parle.
Ouais, c'est ça. C'est une espèce de monologue. C'est trépidant. Ça va très vite. Moi, j'ai un rythme interne assez rapide. Donc, d'un coup, j'étais en phase avec cette lecture-là. Mmh.
Alors, peut-être on peut dire deux mots de ce que raconte ce roman.
Oui, oui, oui. Alors, par contre, je sais très mal parler. Je sais parler des sensations, mais très peu.
Qu'est-ce que ça vous a laissé comme souvenir ?
Assez mal des livres. Non, mais pour le pitch, quand même, je peux à peu près me souvenir. En fait, il est en plein chagrin d'amour. Il reçoit un coup de fil. C'est son ex qui l'appelle. Alors, lui, il est tout content, mais en fait, c'est son ex qui l'appelle pour l'inviter à un anniversaire. Et c'est un anniversaire surprise. Il doit venir et venir avec un cadeau. Bon, il va à l'anniversaire, il recroise son ex, et en fait, on apprend plus tard que c'est l'anniversaire de Sophie Calle, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et Sophie Calle avait comme jeu de fêter son anniversaire et d'inviter autant d'invités connus, plus un invité mystère, un invité inconnu. Donc là, c'est ce rôle et choix à Grégoire, qui débarque dans cet anniversaire avec la bouteille de vin qu'il a achetée.
Et il raconte ça.
Et il raconte ça, voilà. Et donc, c'est rigolo, parce que c'est sa rencontre avec Sophie Calle, mais c'est surtout une écriture... ça a été un vrai, vrai coup de foudre. Et je parle de famille de lecture, parce que c'est à la même époque que je découvre Grégoire Bouillet, que je découvre Philippe Génada aussi, avec Le Chameau Sauvage, que je découvre François Virgans aussi. Mais tout ça, pour moi, d'un coup, c'est rigolo, parce que je découvre les trois à peu près en même temps, et c'est la même famille. Enfin, c'est une écriture très vive, trépidante, hyper drôle, et surtout, c'est les rois de la digression, tous les trois, quoi. C'est des digressions... Et ça correspond, c'est ça, c'est de la musique. Et si on se trouve en résonance, moi qui fais tout le temps des digressions partout, et dans la vie, et d'un coup, on se retrouve avec des gens qui parlent le même langage, qui ont le même rythme. Et ouais, c'est quelque chose de douillet de se retrouver dans des livres comme ça.
Et ça vous a relancé, vous disiez, ne pas trouver à ce moment-là de roman à votre goût. Ça vous a refait lecteur, Fabrice Caro ?
Ça m'a refait lecteur, ça m'a même refait auteur. Parce que j'avais écrit un roman il y a très longtemps qui s'appelait Figuré, qui était sorti chez Gallimard. J'avais laissé un petit peu tomber le roman, j'étais passé à la BD. Et de redécouvrir ça, je me dis, mais en fait, c'est chouette, quoi. Enfin, il y a quelque chose de jouissif dans l'écriture, quoi. Et je crois que ça m'a replongé. Alors, en tant que lecteur dans la lecture, mais aussi en tant qu'auteur dans l'écriture.
Finalement, c'est une joie qui a alimenté les deux canaux, quoi, lecture-écriture.
Ouais, je crois que, comme je dis, on a besoin de se nourrir. Et si on n'a pas la nourriture, je crois que je manquais de nourriture. Il faut être excité, en fait. Moi, je crois que chaque livre que j'ai écrit, ou chaque BD, il fallait une étincelle d'excitation au début. Il faut être excité pour se lancer, quoi.
Et ça, c'est assez rare, du coup. C'est-à-dire que cette étincelle-là, on ne peut pas la provoquer. Il faut qu'elle soit quand même... faut qu'elle vous arrive du dehors.
Ouais. Assez rare. Enfin, moi, je la trouve trop rare. Je la trouve trop rare. J'aimerais être excité tout le temps. On n'est pas excité tout le temps. Enfin, il faut dire aussi que je lis pas assez. C'est pas en lisant demi-heure au lit le soir que je vais trouver l'excitation. C'est rare de trouver, je trouve, un livre d'un coup qui... Waouh, c'est ça. Ouais, une espèce de... On est en phase, quoi. On est en phase avec l'auteur.
Le prochain choix vers lequel nous allons, c'est un texte qui est paru en premier lieu en 1963, puis en 1983 et en dernière édition en 1990. Ça s'appelle « Septentrion ». C'est un texte de Louis Calaferte. Quand est-ce que vous le découvrez ?
Je le découvre à la fac. Donc je me souviens, ma chambre de CTU, c'est une toute petite chambre comme ça. Et là, pareil, c'est un coup de foudre. Moi, je suis très passionnel. Je peux tomber sur des livres totalement au hasard. Et puis, c'est des coups de foudre.
C'était où, la fac ?
C'était à Montpellier. Et à tel point que, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Je voulais en savoir plus sur ce gars-là. Et je ne savais pas où chercher. J'étais allé à la bibliothèque. Et j'avais trouvé une photo de lui. Je l'avais photocopié. J'avais collé au mur sur la chambre de ma CTU. Et c'était mon seul poster. À l'époque, tout le monde avait Nirvana ou Guns N' Roses.
Vous aviez Louis Calaferte.
J'avais Louis Calaferte. C'est un petit peu décalé. Mais je le trouvais très beau. Et il était déjà vieux à l'époque, avec une tignasse blanche comme ça. Et à tel point que j'avais dit ça à mes potes à l'époque, ça les faisait marrer. J'avais hâte de vieillir pour lui ressembler. J'ai hâte d'être un vieux avec un pantalon de velours côtelé, une veste toute usée, des cheveux blancs, n'importe quoi. Tellement j'étais fasciné par l'image de...
Avant même de lire, c'était comme une sorte de figure masculine intéressante.
Après avoir lu Septentrion.
Après avoir lu Septentrion.
Oui. D'accord. Non, parce que du coup, j'ai lu Septentrion. Ça a été un coup de foudre. Mais c'était, là pareil, quand je parle de famille de lecture, de famille de livres, c'était aussi, j'étais fasciné par tous les auteurs qui parlaient de la... Parce que moi, je voulais écrire, Donc j'étais fasciné par tous les auteurs qui parlaient de l'auteur, qui parlaient d'eux, qui parlaient de la condition d'auteur. Donc toute l'imagerie hyper romantique de l'auteur miséreux dans sa piole, qui écrit avec sa machine à écrire, avec une clope toute la nuit, une bouteille de whisky. Oh, ça me faisait fantasmer ce truc-là. L'auteur fauché, j'étais là, le fantasme de l'auteur fauché.
Vous vouliez écrire, mais vous n'écriviez pas à cette époque-là ?
Si, j'écrivais, mais alors justement, je me suis lancé à cette époque. Justement, moi, je lisais beaucoup d'auteurs qui parlaient des auteurs. Justement, je lisais Jean, j'adorais Jean. C'était la même sève, en fait. C'était des auteurs qui se racontaient beaucoup, enfin, de manière fictionnelle ou pas, mais... Il y avait Maudit Manège de Jean, il y avait les Miller, Tropique du Cancer. Il y en avait d'autres, mais Bukowski, bien sûr. Mais tous les auteurs qui parlaient de la condition d'auteur, ils racontaient toujours la même chose, que ce soit Miller, Jean ou Calafert. Ils étaient tous miséreux, ils n'avaient pas un rond, ils avaient leur machine à écrire, ils attendaient le chèque de fin du mois.
Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans?
Oh, ça me faisait fantasmer, c'est vrai que je devais...
Ça pourrait paraître pas hyper ragoûtant.
Ben non, ouais, je devais manquer d'ambition, parce que ça me...
Non, bah, c'est très romantique, c'est une figure hyper... très romantique, oui, de l'auteur.
J'étais hyper romantique, donc j'adorais cette image hyper romantique de l'auteur qui n'a pas un rond, qui attend son chèque, qui essaie de... Qui écrit, donc j'avais, et moi je voulais ressembler à ça, que j'avais hâte d'être vieux et fauché, quoi. J'étais allé acheter une machine à écrire aux puces, je me rappelle, déjà je faisais les puces. Il y a des lettres qui marchaient pas, donc j'avais des trous dans mes textes. Mais j'adorais ça, c'était une image ultra romantique.
Qu'est-ce que vous écriviez à l'époque? Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter comme histoire?
Oh, c'était pas très bon. Je me rappelle, le premier roman que j'ai écrit, c'était sous influence Calafert. J'ai refermé Septentrion, j'ai écrit mon premier roman comme ça. Ça s'appelait L'apprenti vivant. Mais ça se voulait, oh non, c'était pas très bon, c'est très sérieux, très sentencieux. Quand on écrit son premier texte, on veut tout mettre. Enfin, je crois que ça c'est un tic d'auteur, je crois que tous les auteurs vous diront ça. Le premier texte, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on veut, on veut tout mettre, et c'est une espèce de gloubi-boulga indigeste. Enfin, c'était très très mauvais. Et voilà, c'est resté à l'état de cahier, mais voilà, c'était un petit peu cette influence, ouais, très romantique, quoi, très sérieuse. J'étais pas du tout dans l'humour. Non. Pour moi, la littérature, c'était quelque chose de sérieux, quoi. Fallait pas rigoler avec ça.
Ça s'est détendu un petit peu après.
Ouais, je me suis aperçu que ça pouvait être autre chose. Mais à l'époque, pour moi,
ça n'enlève pas le sérieux, d'ailleurs.
Ouais, non, on peut être. Non, ça, c'est un truc que j'ai appris avec.
Ni l'humour, ni la légèreté.
On peut être très sérieux en faisant de l'humour, ouais, bien sûr. Ouais.
Alors, on revient à Septentrion, il y a quoi dans ce livre ?
Je me suis souvent dit que ce livre, qui pour moi a été culte, je ne pourrais pas le relire. Je crois qu'il ne me plairait plus aujourd'hui.
Ah oui ?
Ouais.
Ah, c'est intéressant.
Ouais. Mais souvent, c'est ça. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais ben, on évolue, quoi. Et j'ai peur de le relire. Je crois qu'il ne me plairait plus aujourd'hui.
Mais en même temps, il figure quand même ici.
Ouais, parce qu'il est culte. Parce que je ne suis pas ingrat.
Vous vous souvenez de ce qu'il vous a apporté au moment où il vous
l'a apporté. Partie de mes textes fondateurs. Que ce soit Oui-Oui. Oui-Oui et Calafert, c'est un petit peu le grand écart. Mais c'est les textes fondateurs pour moi. Donc, comme je ne pourrais pas relire Oui-Oui, je ne crois pas que je pourrais relire Septentrion. Mais pour autant, ça m'a construit. Ouais, je ne pourrais pas le relire parce que je trouverais ça... Bah déjà, il était très mystique. Moi, je ne suis pas très croyant. Il était très mystique. C'était un anarchiste un petit peu mystique. Ça parle beaucoup de sa relation à Dieu. À tel point que moi, j'ai eu ma période un petit peu mystique après avoir lu Septentrion.
Sous influence de Calafert.
Ouais. Alors qu'à la base, j'étais pas... Alors bon, je suis resté mystique 2 mois, pas plus. Mais malgré tout, il m'a fait réfléchir. Je me suis dit, oh, si un gars comme lui croit en Dieu, c'est qu'il y a un truc, quoi. Il m'a un petit peu ébranlé, ouais. Bon, après, ça m'a passé très vite. Le naturel revient au galop, mais...
Vous avez choisi un extrait.
Oui.
Donc on vous écoute. Vous pouvez chausser vos lunettes tranquillement.
Pour l'instant, vous me surprendriez vraisemblablement dans un passé vieux déjà de quelques années, écrivant des nuits entières, des jours entiers, parfois demi-brisés de fatigue, le corps cassé d'être resté plié en deux au-dessus de la table, l'estomac douloureux et dans la bouche l'écœurement sec du tabac. Claustré pendant des semaines d'affilée dans mes chambres d'hôtel successives et en tout dernier lieu de cette période singulière où je commençais d'écrire dans la chambre à coucher du minuscule appartement où j'étais venu m'installer avec une femme, rédigeant un livre sur lequel je fondais tous mes espoirs. Livre qui ne verrait jamais le jour, du moins sous sa forme originelle. Mais en l'écrivant, j'étais persuadé qu'il atterrirait bientôt sur la planète avec la force d'une météorite, laissant loin derrière lui tous ceux que j'avais pu ingurgiter en vrac au cours de 7 ou 8 ans de quête intellectuelle désordonnée. Comment expliquer aujourd'hui cette rage de lecture qui me tenait continuellement sous pression, cette faim de découverte, cette fébrilité vis-à-vis de tout ce qui était imprimé ? Le choc que j'imaginais de voir se produire un jour, que je souhaitais ardemment, n'avait jamais eu lieu. Ce qui ne m'empêchait pas de renouveler l'expérience aussi souvent qu'elle se présentait.
On va faire une petite expérience après la lecture de cet extrait par vous, Fabrice Caro, de cet Entrillon de Louis Calafert. C'est la couverture de la republication du livre de Septentrion. D'abord édité en 63 et ici on est en 1984. Et que dit la quatrième de couve ? Aux environs de 1960, Louis Calafert a déjà publié chez Julliard deux ouvrages qui ont suscité la vive attention de la critique et des lecteurs. Il se consacre alors à la composition d'une fresque autobiographique destinée à rendre compte de ses expériences passées et à dessiner l'avenir de ses options intellectuelles et spirituelles. Or, Calafert a connu une vie dure, violemment contrastée au niveau les plus variés de la société. Son tempérament le porte aux formes les plus extrêmes de l'érotisme et de la mystique, de la révolte contre la misère matérielle et morale. Son lyrisme fait merveille à exalter cette riche matière. Parue en édition club, cette œuvre est aussitôt interdite à la vente. L'époque ne supportait pas encore la crudité de ses croquis de mœurs et l'apparence provocatrice du langage. On est heureux de présenter ce roman au public moins pudibond d'aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que dans la manière dont vous le décrivez, Fab Caro, dans la trace qu'a laissé ce livre sur vous et sur l'étudiant que vous étiez, c'est vraiment l'écriture et la projection de cet homme dans ses options intellectuelles, beaucoup plus que la crudité des mœurs et la place de la sexualité et de l'érotisme, alors que c'est tout ce qu'on trouve dans tous les résumés du bouquin.
C'est vrai. Oui, je ne devais pas être trop porté sur la chose. Non, c'est vrai. Avec le recul, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il est très, très, très sexe. Il y a beaucoup de sexe.
Et qu'il a été beaucoup. Interdit pour cette raison-là.
Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ouais. C'est vrai. Ah ouais, ça parle beaucoup. Ah ouais, mais ouais, j'étais pas émoustillé. Je crois que c'est. Enfin, j'allais c'était... pas chercher ça dans un
ouais,
roman, surtout
vraiment,
pas. Ouais, ouais.
C'était vraiment lui en tant qu'auteur et ce qu'il écrivait en tant qu'auteur.
Voilà l'extrait que je viens de vous lire. Là, l'auteur qui a mal au dos, qui s'en sort pas. Voilà, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce que j'adorais. Mm. Après, ces interminables scènes de sexe, ouais, ça me revient. J'avais complètement oublié qu'il y avait autant de sexe dans ce livre. Non, j'avais complètement oublié ça.
Il parle de la rage de lecture. C'est assez beau quand même.
Ouais,
qu'est-ce qui pouvait expliquer cette rage de lecture?
Ah, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais c'est un mode de vie, de survie même. Je crois que quand on en est là, Miller, c'était pareil. C'est des gens qui pouvaient passer des 12-14 heures toute la journée à écrire parce qu'ils pouvaient pas faire autrement, parce que c'était leur mode de vie. C'est. Ouais,
Pour l'avoir envié en étant jeune étudiant à Montpellier, Fab Caro, est-ce que, avec un peu de recul, c'est vraiment une vie enviable?
Ah oui, moi j'adore ma vie.
Toujours.
Ouais.
Non mais je veux dire celle-ci,
ah,
quoi.
Celle-ci
de l'auteur fauché qui écrit qui lit pendant 14 heures parce qu'il ne peut pas faire autrement.
Non, parce que j'ai vieilli, parce que j'ai un frigo à remplir, parce que mes filles font des études, il faut payer les études. Donc non, moi j'adorais l'idée d'être fauché. Moi j'ai toujours été fauché, cela dit, j'ai jamais eu d'argent, j'ai toujours bien vécu sans argent. Mais faut essayer d'être un petit peu moins fauché avec l'âge, surtout quand on a des enfants, faut essayer d'être un petit peu moins fauché. Mais je trouve l'idée toujours belle, en tout cas. Mm. Je trouve l'idée toujours belle de la beauté du geste. C'est-à-dire, moi, je continue à vouloir faire des choses. Je devrais pas le dire parce qu'il y a beaucoup de copains auteurs que ça énerve. Mais bon, qu'importe. Je continue à vouloir faire des choses gratuitement. Pour l'envie, pour le plaisir, pour la beauté du geste. Pour que tout ne soit pas monnayé. Donc, mais ça, c'est les restes de cette époque. J'aime bien l'idée de la beauté du geste, faire ça. Bah, ça rapporte. On n'a pas le choix. Ça rapporte pas. On n'y arrive pas. Mais on n'a pas le choix parce que c'est notre mode de vie. C'est notre bulle, quoi.
C'est une archive de Jean-Louis Trintignant qu'on va écouter, qui va nous emmener vers votre prochain choix de texte, Fabrice Caro. On l'écoute.
Trintignant Jean-Louis Xavier, né le 11 décembre 1930 à Piolenc-Vaucluse. Artiste dramatique, marié, bon père, bon mari, bon pied, bon œil, pas terrible.
J'ai jamais eu vraiment de vocation d'acteur. Non. Quand j'étais enfant, je me disais pas, quand je serai grand, je serai acteur. Non, à 15-16 ans, si j'avais envie de faire un métier artistique, mais j'étais tenté davantage par la sculpture. J'aurais voulu être sculpteur. Je trouve que c'est beau. On travaille avec ses mains. J'aurais voulu être peintre, musicien. Mais j'étais pas doué pour la musique, j'étais pas doué pour la peinture. Alors je suis devenu acteur parce que c'est ce qu'il y a peut-être de plus facile. Je m'enferme parce que j'ai besoin de cette solitude. Je reste comme ça enfermé pendant deux jours, une nuit. Je reste enfermé avec mon magnétophone et des textes. Et je travaille. Mais je ne sors pas de ça. Je ne réponds pas au téléphone, je ne fais rien. C'est comme si c'était un temps mort dans ma vie. C'est comme si j'étais malade pendant 2 jours. Je suis malade. Là, au moins, j'ai mon petit coin secret à moi. J'écris des histoires pour le cinéma. J'ai ça et la poésie. J'écris pas de la poésie. Mais je lis beaucoup de poésie, j'enregistre de la poésie.
Et qui entend ça? Qui
écoute? Personne. Moi.
Votre femme?
Oui, des fois, oui. Mais c'est surtout pour moi. Je travaille, je corrige, je recommence. Il y a par exemple des poèmes que j'ai enregistrés plus de 800 fois. Je les efface, ça me plaît pas, je perfectionne un petit peu. Ceux que j'ai le plus travaillé, c'est Le Voyage de Baudelaire, Le Bateau ivre de Rimbaud, La prose du Transsibérien de Sandrard. Vous savez, un acteur est toujours un peu insatisfait. Et là, vraiment, je voudrais arriver à une sorte de perfection, si c'est possible. Mais c'est peut-être la seule chose, finalement, dans mon métier que j'aurais essayé de faire parfaitement. Je sors de là très enrichi. Ça m'apporte ces moments difficiles à obtenir à notre époque et qu'il faut préserver. Je tiens absolument à avoir ces moments-là. C'est ma nourriture. Mais je suis une sorte de moine comédien.
Je suis allé pendant 10 soirs, c'était tous les soirs le cours du Lin, c'était à Montmartre. Je suis allé devant le cours et je n'ai pas osé rentrer. Pendant 10 soirs, comme ça, je me disais, il faut que j'y aille, c'est pas possible. Et puis j'allais devant le cours, je voyais les autres qui avaient l'air sûrs d'eux, je ne suis pas rentré. Et puis un jour, je me suis saoulé et ça m'a donné le courage d'y aller. J'ai bu du rhum, c'était ce qu'il y avait de moins cher pour se saouler. J'ai bu du mauvais rhum, je suis allé en cours et j'ai été malade. J'ai dû repartir parce que je vomissais. Je crois que je n'ai jamais eu d'ambition, mais maintenant j'en ai de moins en moins, explique à cette époque le comédien. Peut-être est-ce un signe de vieillissement, peut-être est-ce un signe de sagesse, je pense de sagesse. Je vis de façon très simple dans un village, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'être célèbre. Je ne vois pas de quoi j'aurais besoin. Ma seule ambition, c'est de faire le plus de films intéressants. Ça, je voudrais arriver à en faire plus que Piccoli. Piccoli, il en a fait tellement.
C'est un extrait d'une biographie signée Vincent Kivi, journaliste qu'il consacre au grand acteur Jean-Louis Trintignant. C'est un livre qui est paru en 2015, que vous avez choisi de nous lire, Fabrice Caro. Et juste avant, on entendait la voix de cet immense comédien parler de voilà, la vie simple, son rapport au texte. Et vous, vous choisissez deux extraits, l'une où il est question de sa timidité maladive, mais bouger, transformer, et l'autre de sa sagesse, de son absence d'ambition. C'est marrant quand même.
Je sais pas, il faut y voir quelque chose, il faut y voir un lien.
Non, peut-être me dire pourquoi vous vouliez parler de ce livre-là d'abord.
Alors, toujours dans cette histoire d'étape de lecture, ouais. Force est de constater, si on regarde ma bibliothèque, qu'il y a énormément de biographies et d'autobiographies. Donc je me dis, je ne pouvais pas faire un pass sur une biographie. Ouais.
Vous aimez bien cette forme?
Ouais, j'adore ça. J'adore les. Ouais, déjà, j'aime bien la vie des gens, de manière générale. J'aime bien les parcours. Mais alors, particulièrement des parcours d'artistes, peut-être parce que ça me touche plus. Je sais que, par exemple, les parcours d'hommes politiques ou personnages historiques ne me fascinent pas plus que ça. Peut-être parce que je ne me sens pas trop d'affinité. Mais après, j'ai énormément de bio et d'auto-bio. Mais alors, ça ratisse hyper large. Ça peut aller de Carlos à David Lynch, ou de Johnny à Jean-Loup Dabadie, à Fellini. Enfin, vraiment, c'est vraiment la culture populaire. Enfin, populaire ou pas, mais en tout cas, ouais, tout ce qui touche les biographies d'artistes, ça me fascine. J'adore ça, avoir des parcours. C'est souvent des parcours, souvent, même toujours, des parcours passionnants. Quoi.
Mmh. Et alors, pourquoi Trintignant en particulier?
Et Trintignant, lui, c'est mon chouchou. Alors, il se trouve que c'est une bio que je suis en train de lire, qui est sur ma table de chevet. Mais Trintignant, c'est un gars que j'ai toujours aimé. C'est marrant parce que c'est un acteur que j'aimais pas quand j'étais ado, parce que je le trouvais fade. Il y a deux acteurs que je trouvais hyper fades. Je comprenais pas pourquoi on les aimait. C'était Trintignant et Mastroianni.
Et avec pas des moindres.
Mais voilà. Et avec l'âge, c'est devenu mes acteurs favoris. Ouais. Parce que, justement, parce qu'ils en faisaient très peu. C'est des acteurs qui avaient une présence, qui en faisaient très peu. Et alors que moi, j'aimais les De Niro, les Al Pacino, les Lucchini, les Depardieu qui en faisaient des caisses, quoi. Mais avec l'âge, non, c'est devenu mes deux idoles, quoi. Trintignant et Mastroianni. Et Trintignant, surtout, j'aime l'humain, quoi. C'est des gens atypiques, qui sont en dehors des clous. Ouais, qui n'ont pas les mêmes codes, même les codes médiatiques. Ça, c'est hyper rafraîchissant de les écouter, quoi. Il y a lui, il y a Murat qui était aussi... Bon, Murat dans un autre style, ou Bacri, enfin des gens comme ça, ou Françoise Hardy, d'un coup je déballe. Mais des gens que j'aime bien écouter parce qu'ils n'avaient pas les codes.
Ou alors ils les avaient et ils décidaient de ne pas jouer avec ou de jouer différemment avec.
Oui, ils les avaient sûrement et puis ils s'en foutaient un petit peu.
Mais c'est marrant parce qu'à vous écouter, Fabrice Caro, quand vous parlez de sa biographie, même tout à l'heure quand vous parliez de Louis Calafert, découvert beaucoup plus tôt dans la chambre d'étudiants, j'ai aussi l'impression que dans ces livres-là, il y a comme des figures, des possibles identifications. Vous avez égrené des tonnes de biographies, en l'occurrence plutôt des hommes, comme si c'était aussi des vies possibles ou des figures possibles.
Ouais, Trintignant, le lien, si j'essaie de faire un lien, c'est un provincial qui est monté à Paris, hyper timide, donc... On se retrouve en famille, quoi. On se dit, c'est génial de voir des gens comme ça qui...
Mais comme un miroir, quoi, qu'il est bon de lire aussi.
Ouais, ça fait du bien, c'est douillet, on se sent en famille. Et c'est hyper attachant. Enfin, c'est bizarre de dire que c'est hyper attachant, parce que ça nous ressemble, mais...
Non, ça me paraît plutôt commun.
Oui, non, ça fait un petit peu narcissique de trouver attachant quelqu'un dont on...
Non, c'est un des ressorts de la lecture, quand même, de trouver des identifications.
Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui me manque beaucoup. Puis là, il avait une voix, cet extrait-là, il avait une voix extraordinaire. Puis surtout, ce sens de l'autodérision et de toujours s'auto-déprécier. Ça, peut-être aussi, on me le reproche souvent, que je suis toujours en train de m'autodérider. Donc, je me reconnais pas mal dans...
Quand lui, à la fin, il dit, dans cet extrait que vous avez lu de la biographie de Vincent Kivy, « Je veux une vie simple, j'ai pas d'ambition ». Bon, en même temps, il termine quand même en disant que Piccoli a fait plein de films chouettes et que ce serait bien d'en faire autant ou d'aussi bien. Une espèce de tension comme ça, entre pas avoir d'ambition, mais avoir quand même quelques rêves, ça vous parle?
Oui, ça me parle. Après, tout dépend ce qu'on entend par ambition. Oui. J'ai toujours dit que j'avais aucune ambition, ce qui est vrai. Mais cela dit, si on réfléchit, vouloir essayer de vivre de l'écriture, c'est une ambition...
Folle.
Rare
à réaliser.
C'est de la folie de dire non, moi je vais rien faire de ma vie, je veux pas bosser, je veux pas de patron, je vais vivre de l'écriture. Donc faut être un petit peu...
Vous continuez à dire, Fabrice Caro, que c'est pas bosser?
Non, pour moi c'est pas bosser. Enfin, maintenant je commence à gagner de l'argent avec ça, donc une espèce de preuve matérielle que c'est un boulot. Mais non, encore une fois, moi je viens d'un milieu populaire où travailler c'était pas ça. Mes oncles ils sont tous maçons, moi j'ai été maçon un petit peu l'été donc travailler pour moi c'est ça, c'est mettre du goudron sur la route, c'est faire du mortier, c'est pousser des brouettes, ça c'est travailler. Moi je travaille pas, enfin moi j'ai honte de dire que je travaille. Encore une fois, je vais me faire taper sur les doigts en disant un truc pareil, mais j'ai encore ce vocabulaire de prolo, c'est-à-dire non, moi je travaille pas, je retrouve ma bulle d'enfance. Tous les matins, je me lève, je m'amuse. Et je ne fais rien qui ne m'amuse pas.
Mais c'est parce qu'il y a un lien au plaisir que vous imaginez qu'il n'y a pas de travail.
Ah, peut-être.
Non,
ouais,
je sais pas, c'est une question.
Ouais, peut-être. Ouais. Et puis, encore une fois, il n'y a pas d'effort physique. Surtout moi, en plus. Pour moi, c'est que du plaisir. Encore une fois, je ne fais pas de choses qui me sont pénibles. Souvent, on entend des auteurs, c'est une phrase assez classique d'auteurs, qui disent « Ce livre, ça a été un accouchement douloureux ». Mais j'ai envie de leur dire, mais ne le fais pas. Enfin, si c'est un accouchement douloureux,
chacun trouve sa manière d'écrire comme il l'a
envie
d'écrire.
Pardon, le fasciste. Le fasciste qui impose ces trucs. Non, mais moi, je sais que il faut pas que ce soit douloureux. Enfin, pour moi, l'écriture, au contraire, c'est la vie. Enfin, c'est le reste qui est douloureux. L'écriture, c'est que du plaisir. C'est pour ça que j'ai du mal à parler de travail. Moi, je me lève le matin, je me mets sur mon canapé, les pieds, je sors mon ordi et j'écris et je m'amuse. Alors, je vais dire que c'est du travail par respect pour mes amis et mes confrères auteurs, mais moi je trouve que ça va comme boulot, il y a pire.
Le dernier texte qu'on évoque avec vous, c'est un texte de David Lodge qui s'appelle Thérapie, qui est paru en 1996. Est-ce que vous voulez dire pourquoi vous l'avez choisi?
Là pareil, ça a été un déclic, et ça a été encore un coup de foudre. Oui, comme je disais tout à l'heure, moi, je sortais de Septentrion, Calafaire, de la littérature très mystique, très romantique, très sérieuse. Pour moi, la littérature, c'était sérieux. À côté de ça, je lisais de la BD, qui était de la BD d'humour. Voilà, la BD, c'était de l'humour. La littérature, c'était sérieux. Et là, d'un coup, je tombe, je sais plus comment, d'ailleurs. Bon, qu'importe. Je tombe sur Thérapie de David Lodge, et je découvre un gars qui fait de la comédie, qui est très drôle, et qui écrit super bien. C'est un universitaire, il écrit super bien, et c'est de la comédie. Et là, je me dis, waouh, mais on a le droit. D'un coup, je me dis, on peut faire de la littérature, de comédie. Et ça a été... alors déjà, ouais, j'ai choisi parce que j'adore David Lodge, mais aussi parce que ça a été un déclic pour la suite en tant qu'auteur. Encore une fois, c'est lié tout ça, la lecture et l'écriture. Et c'est après David Lodge que j'ai osé me lancer dans un roman comédie. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, il m'a donné...
Vous pensez auquel ?
Il n'a jamais été publié. Ça s'appelait Alopécie. C'est un gars qui perdait ses cheveux et ça l'angoissait. Alors, moi, il me faisait rire, mais il a été refusé. il devait pas être très bon. Je l'ai envoyé à tous les éditeurs possibles. J'ai eu que des... Je crois que je l'ai envoyé à 20 éditeurs. Toutes les adresses que j'avais sur Paris, j'ai envoyé par courrier. J'ai eu 19 lettres types de refus. Et la seule réponse un petit peu sympa, c'était le dilettante qui m'a fait une belle lettre manuscrite avec plein de gentillesse. Et bah d'un coup, j'ai un flash, je me dis, bah, si ça se trouve, j'ai continué grâce au dilettante, tiens. On salue le dilettante. Mais donc, voilà, David Lodge pour ça, ça a été un déclic. Je me suis dit, bah, en fait, on peut faire de la littérature bien écrite en étant léger et sérieux. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, l'humour, ça peut être aussi très sérieux. Oui.
Alors, on écoute un extrait de Thérapie. David Lodge, c'est un auteur qui est né en Angleterre en 1935. Il est aussi universitaire. Il a écrit par exemple un essai théorique qui s'appelle « L'art de la fiction », assez connu, paru en 1992. On écoute Thérapie.
Je trouvais ça un peu rude d'être affligé d'une douleur mystérieuse dans le genou, en plus de tous mes autres soucis. D'accord, il peut vous en arriver de pire physiquement. Par exemple, le cancer, la sclérose en plaques, l'emphysème, la maladie des neurones moteurs, celle d'Alzheimer ou le sida. Sans parler des trucs congénitaux, tels la dystrophie musculaire, la paralysie cérébrale, l'hémophilie et l'épilepsie. Et n'oublions pas la guerre, la peste et la famine. C'est drôle que le fait d'avoir conscience de tout ça ne vous aide pas le moins du monde à supporter d'avoir mal au genou. Cela tient peut-être à ce qu'on appelle l'effet d'usure de la compassion, l'idée que les médias nous jettent chaque jour à la figure une telle masse de souffrances humaines que notre sensibilité s'est émoussée, nous avons épuisé toutes nos réserves de pitié, de colère, d'indignation, et ne songeons plus qu'à la douleur qui nous travaille le genou. Je n'en suis pas encore là, pas tout à fait, mais je comprends de quoi il s'agit. Je reçois dans mon courrier des tas de sollicitations de bonnes œuvres. Je crois que ces gens-là se refilent des listes de noms et d'adresses. Il suffit de faire un don à une organisation, on n'a pas eu le temps de se retourner, que les enveloppes pleuvent dans la boîte aux lettres plus vite qu'on ne peut les ramasser.
Voici ce que disait l'éditeur Rivage en 1996 à propos de ce livre de David Lodge, Thérapie. Rien ne va plus dans la vie de Lawrence Passmore, scénariste d'un sitcom à succès. Son genou le fait souffrir, sa femme le quitte et les difficultés professionnelles s'accumulent. Ni sa passion soudaine pour Kierkegaard, ni les thérapeutes qu'il consulte ne parviennent à le détourner de la dépression. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce texte ? Alors, vous avez dit que voilà, c'était à la fois une manière d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus drôle, mais peut-être ce personnage-là ?
Oui, le personnage. Et puis, je sentais une espèce d'autobio derrière. Alors, je ne connaissais pas David Lodge du tout, mais je sentais, c'était un universitaire... Enfin, ah non, ce n'est pas lui, c'est un scénariste. Il parle beaucoup d'un il y a beaucoup d'universitaires.
Il est aussi universitaire.
Oui, lui est universitaire. Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'est un scénariste.
Oui, lui, c'est un scénariste.
Mais je sentais beaucoup d'auto... Alors, je ne sais pas si j'ai besoin de ça pour lire un livre, pas forcément. Mais je sentais beaucoup d'autobiographie derrière, et du coup, ça me le rendait assez attachant. Mais non, c'est le mélange de... C'est ça, de comédie, d'arriver à être drôle avec une écriture que je trouvais assez belle et assez fouillée, assez travaillée.
Merci beaucoup, Fabrice Caro, d'avoir déballé pour nous votre bibliothèque.
Merci à vous.
On range les photocopies.
Allez.
Et on vous souhaite bon courage dans ce projet incroyable de votre bibliothèque, de recomposition de votre bibliothèque.
Je vais essayer d'aller au bout, oui. Merci.
Merci.
così basse le stelle sul capo, che par mi vogliano incoronare. Se alzasi appena per gioco la mano, forse le potrei toccare. Ma non ho forza d'alzar la mano, l'aria sa troppo di rose bianche. Le si guardano fisse con gli occhi mansi di donne stanche. C'è così poco fra loro, un po' d'aria, solo un po' d'aria. E non possono baciarsi.
Au son pour cet épisode, c'était Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Vivien Demeyer. Vous pouvez retrouver toutes les références des textes évoqués par Fabrice Caro sur le site franceculture.fr à la page du Book Club. C'est aussi là qu'on mettra les références des traductions. Et c'est aussi sur cette page que vous pouvez retrouver le lien vers tous nos portraits de bibliothèque. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Oriane Mignot, Mathilde Wagman, Cyril Marchand, Marianne Chassor, Alexandre Alaï-Begovic.
C'è così poco fra me e te, un po' d'aria, solo un po' d'aria, e non posso baciarti. Tu sei nascosto, ma la tua vita chiama nell'ombra i miei sensi veglianti. Il mare è nascosto, ma il suo respiro ampie la notte di tutti i miei pianti. Notte di capri. Notte di capri. Notte di capri.